la fille du roi. Le fuyard est celle qui sauve. Le roi David est la femme stérile. Ces trois étapes de la vie de ce couple, David et Michal, comptées dans les deux livres de Samuel, pourraient bien faire les grands titres de la presse people contemporaine, ou bien le script pour un scénario de feuilleton type Desperate Housewives. Tous les ingrédients sont réunis. Le berger à la figure d'ange, dont était pris la fille du roi. L'irrésistible ascension de ce même berger au statut de héros national. Un beau-père jaloux et dangereux. Amour, gloire, beauté, jalousie, rancœur, famille, toutes les ficelles d'un storyboard efficace sont réunies avec un script à l'efficacité redoutable, placé sous la plume du rédacteur Samuel. Toute cette histoire commence à la sortie du champ de bataille. Le roi Saül avait promis à celui qui vaincrait, souvenez-vous, l'invincible Goliath, le Philistin, il lui avait promis honneur, gloire et sa fille. Seul David, berger, fils de Jessé, avait osé se mesurer au géant. Et le gamin, au teint clair et au joli visage, comme le décrit le texte de Samuel, avait, d'un seul jet de pierre, vaincu le géant Goliath. Ensuite, David, mandaté par Saül, prend la tête des armées et enchaîne une campagne de victoire sur les Philistins. Autour du nouvel héros, ce ne sont que joie, chant et musique. À son passage, on pouvait entendre « Saül en a battu des mille et David des myriades ». C'est justement ce refrain qui porta préjudice aux relations entre David et son beau-père Saül. Nous pouvons lire dans le texte biblique qu'à l'écoute de ce slogan, un esprit mauvais venu de Dieu fondit sur Saül et il entra en transe dans sa maison. David jouait de son instrument comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. C'est alors que Saül jeta la lance et dit « Je vais clouer David au mur ». Je vais clouer David au mur. L'ancien Messie de Dieu, Saül, qui veut clouer le nouveau Messie, David. Saül se rend donc compte que l'Esprit du Seigneur n'est plus avec lui, mais avec David. Saül partagé entre la crainte de David, protégé de Dieu, et son envie de le tuer. Il était pourtant bien obligé de lui donner sa fille. Partagé entre le besoin de ne pas perdre la face et son orgueil personnel, le roi accorda la main de sa deuxième fille, Michal, à David. Alors que normalement, David aurait dû épouser la fille aînée de Saül, Merab. Mariage entre Michal et David, mariage de raison, mais aussi mariage d'amour, puisque Michal, nous dit le texte, était éprise de David. Ce qui ne faisait que renforcer le ressentiment de Saül vis-à-vis de David, David, préféré de Dieu, avait aussi conquis le cœur de sa fille. Saül veut faire périr David et pour la troisième fois du récit, il essaie de le clouer au mur avec sa lance. Mais David est une nouvelle fois sauvé en fuyant. C'est dans ce climat de haine, de salut par la fuite, qu'intervient l'épisode que nous avons lu ce matin. Michal sauve David grâce à une supercherie tellement grossière que l'on est en droit de se demander comment les envoyés de Saül tombent si bêtement dans le panneau. Elle met l'idole dans le lit. L'idole, c'était une statuette de bois. Maquille la chaîne grâce à des artifices en poil de chèvre. Et se débarrasse par un mensonge des envoyés de son père. « Il est malade, » dit-elle. Et par un deuxième mensonge, Michal va sauver sa vie. En parlant de David, elle dit à son père, « Mais c'est lui qui m'a dit, laisse-moi partir, sinon je te tuerai. » Par deux mensonges, Michal sauve son mari et sa devant son père. Puis Michaël disparaît du récit pendant plusieurs chapitres. Au détour d'un verset, nous apprenons de façon curieuse que Saül l'avait donné en mariage à Palti, fils de Laïch. Ce qui laisse présager que Michaël a pris le parti de son père et s'est séparé de l'entourage de David. Le choix de Michaël pour le clan paternel est d'ailleurs confirmé dans le deuxième livre de Samuel, où l'on trouve le dernier épisode des relations de David et Michaël. David est devenu roi de Juda, Saül, lui, est mort. David a conquis Jérusalem et ramène l'arche de l'Alliance. Il monte en dansant devant l'arche avec toute la maison d'Israël dans un joyeux cortège, avec des sitars, des harpes, des tambourins et des cymbales. Arrivé à destination, David vient saluer les siens et retrouve dans sa maison Michaël. En tout état de cause, le rédacteur de Samuel nous propose un dialogue cinglant entre les deux époux. Michaël, la fille de Saül, sortit au devant de David et lui dit « Il s'est fait honneur aujourd'hui, le roi d'Israël, en se dénudant devant les servantes et ses esclaves, comme le ferait un homme de rien. » David répondit à Michaël « C'est devant le Seigneur qui m'a choisi et préféré à ton père et à toute sa maison pour m'instituer comme chef sur le peuple du Seigneur. C'est devant le Seigneur que je m'ébattrai. Je m'abaisserai encore plus et je m'humilierai à ses propres yeux. Mettrai des servantes dont tu parles, auprès d'elles, je serai honoré. » Et Michaël, termine le texte, fille de Saül, n'eut pas d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Trois volets de l'histoire d'un couple. Trois volets d'une histoire que j'ai voulu traiter un peu comme une chronique mondaine. Mais cette chronique peut prendre un tout autre sens si nous restons attentifs à certains détails du récit qui sont repris comme en écho par d'autres passages du texte biblique. Reprenons l'épisode central que nous avons lu ce matin. Un messie que l'on veut clouer. Des émissaires envoyés pour mettre à mort. La mort toujours omniprésente. Un corps que l'on cherche et qui n'est plus là. Une femme qui dit ne pas savoir où est le corps. Un tissu roulé à la place du corps. Nous reconnaissons ici bien sûr de troublantes correspondances avec les textes des récits de Pâques. Matthieu 26. Les grands prêtres et les anciens du peuple tombèrent d'accord pour arrêter Jésus par ruse et le tuer. Marie, en Jean 20, dit trois fois « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Jean 20, verset 4. Le premier disciple arrive au tombeau, se penche et voit les bandelettes posées par terre. Notre récit de l'Ancien Testament transpire derrière les récits de passion. Mais il se place aussi en contrepoint des événements de la nuit de Pâques. D'abord, dans le texte de Samuel, les poursuivants n'arrivent pas à mettre la main sur le Messie. La lance n'arrive jamais à atteindre le corps visé. Le corps de Jésus, lui, sera bel et bien saisi, battu par les soldats et cloué sur la croix. Comme si cette fois, le corps du Messie devait être chosifié à la merci des hommes pour mieux pouvoir ensuite leur échapper. Ensuite, la disparition du corps de David n'est qu'une illusion, une supercherie organisée par Michaël. Il n'y a aucun mystère dans l'absence du corps de David. Et toutes les paroles prononcées au sujet de David sont des mensonges. Le texte ne laisse aucun doute là-dessus. Et pour la nuit de Pâques alors, qu'en pensez-vous ? Le texte biblique, lui en tout cas, fait tout pour évacuer la thèse de la ruse ou de la supercherie et entretenir le mystère. Par exemple, les quatre évangélistes insistent sur la lourde pierre roulée devant le tombeau qui interdit toute intrusion discrète. Quant à la vérité du matin de Pâques, au sujet de ce corps disparu, il s'agit d'une décision, d'une appropriation intime et personnelle, laissée à chacun, à chacune. Veux-tu ou non croire en ces événements ? Veux-tu ou non croire en cette disparition du matin de Pâques ? Veux-tu croire que ce corps est à chercher du côté des vivants plutôt que de celui des morts ? Réponse à donner chaque jour, chaque matin. Parfois, comme Michal, la fille du roi devant son héros, je suis fascinée, éprise de cette vérité.